Je vous remercie pour votre invitation et merci à vous tous pour être venus m'écouter en cette soirée pré-estivale pour vous parler d'un personnage que l'on trouve pratiquement pas dans les livres d'histoire. J'ai eu droit à un ouvrage, à une étude au titre très révélateur, L'oublié de la République. Et pourtant, Crémieux, c'est un personnage central dans la vie politique française pendant le Second Empire, sous la Restauration et même la Deuxième République. Il est central à deux titres. Tout d'abord en tant que dirigeant politique, puisqu'il a été sénateur, député, ministre qui a laissé notamment le souvenir du fameux décret Crémieux qui a naturalisé les Juifs d'Algérie, mais pas seulement la naturalisation des Juifs d'Algérie, mais qui a aussi supprimé les fameux bureaux arabes d'Algérie, des bureaux arabes qui étaient très critiqués. Et Crémieux, donc, c'est un patriote, mais c'était aussi un grand dirigeant juif, un grand personnage juif, qui, d'une certaine manière, il représente ce que les historiens appellent le franco-judaïsme. Le franco-judaïsme, c'est cette synthèse créée plus ou moins par les Juifs de France au lendemain de leur émancipation, après 1791, après la Révolution, une synthèse entre, d'un côté, un patriotisme français à tout craint, et de l'autre, une identité juive assez prononcée. Et pour les tenants du franco-judaïsme, il n'y avait absolument aucune opposition entre ces deux éléments, ces deux composantes. C'était l'héritage, d'une certaine manière, d'une longue histoire, la longue histoire du judaïsme de France, qui existe en fait depuis la Haute Antiquité, un judaïsme qui était assez dispersé, mais qui était composé plus ou moins de trois ou quatre branches. Une branche ashkénaze, à savoir des juifs d'origine allemande ou de rite allemand, en Alsace, en Lorraine et la région des trois évêchés, et qui étaient à la veille de la Révolution le plus nombreux. Et puis deux centres séfarades, le centre du comtat vénitien, auquel appartenait Crémieux, le comtat vénitien, à savoir les fameuses villes du pape, les carrières du pape, les carrières d'Avignon, Carpentras, Cavaillon et Isle-sur-la-Sorgue, ces villes du pape qui vont être rattachées à la France en 1791. Et puis le deuxième centre séfarade, c'est les juifs de Gironde, les juifs de Bordeaux, de Bayonne, c'est les juifs portugais, appelés portugais, ou maranes, à savoir des juifs d'origine espagnole, qui sont installés en France en tant que nouveaux chrétiens, mais qui ont fini par recouvrer leur identité juive. Et puis il y avait un quatrième centre qui, lui, était mixte, où il y avait des séfarades du comtat, des avignonniers, des ashkénazes, qui se trouvaient à Paris. Donc c'était un judaïsme qui était très divers, et il a fallu attendre la Révolution française pour que ces quatre branches s'unissent et formaient ce que nous appelons le judaïsme de France. Et pour les juifs de cette époque, la Révolution française n'a pas seulement accordé l'égalité et l'émancipation aux juifs, elle a en fait créé le judaïsme de France. Et c'est pourquoi, dans leur conception, dans leur vision historique, les juifs pensent qu'ils sont nés de la Révolution française, d'où cet amour passionné de la Révolution, cet attachement aux valeurs de la Révolution, qui en fait va être la marque emblématique, si vous voulez, de ce judaïsme de France. La Révolution donc accorde en 1791 l'égalité des Juifs, et pour tout vous dire, il n'y avait aucune préparation des esprits pour cette émancipation. En fait, l'opinion, les intellectuels ne parlaient très peu de la question juive. Bien sûr, on parlait des Juifs, Voltaire en parle, et pas seulement Voltaire, et toujours pas dans des termes bienveillants, mais jamais on a parlé du statut des Juifs ou de l'avenir des Juifs en France. On parlait davantage de l'avenir ou du statut des Noirs, de la question noire, que de la question juive en France. Donc, si le sujet juif, si vous voulez, s'est imposé, c'est parce que les esprits ont changé. Les idées de progrès qui ont commencé à essaimer dans la société française. Mais si on prend par exemple les textes des philosophes, tout comme les textes des Lumières allemandes, il y a très peu d'allusions aux Juifs, et quand il y en a, ce n'est pas toujours bienveillant. Et le meilleur exemple est celui de Voltaire. Mais la société française changeait pendant le XVIIIe siècle, avec les idées de progrès, mais parallèlement aussi à ces changements de la société française, il y a eu aussi un changement de la société juive. La société juive qui va s'ouvrir aussi aux nouvelles idées, aux nouvelles idées de lumière, aux nouvelles idées de rationalité. Et l'un des premiers chantres de cette ouverture des Juifs à la modernité, ça a été Spinoza, Baruch Spinoza, qui lui-même est d'origine marane, qui vivait à Amsterdam, qui a tout simplement écrit dans son traité politico-théologique un ouvrage très disruptif sur le judaïsme, sur la religion juive, qui a détruit au passage toute la notion de peuple élu, ou encore toute l'idée que c'est la dispersion qui a permis la perpétuation, la longévité des Juifs. Lui pensait que ce n'était pas la dispersion, c'était en fait l'antisémitisme. Et les idées de Spinoza ne sont pas restées à Amsterdam, mais ils ont aussi essaimé dans la communauté juive, notamment à Amsterdam, notamment en milieu séfarade, comme par le fait du hasard. Un excellent exemple de cette ouverture d'esprit nous est donné par le témoignage d'un rabbin palestinien qui, en 1777, arrive à Bordeaux et il nous laisse une description des Juifs de Bordeaux. Il trouve parmi eux beaucoup de Juifs qui sont des déistes, qui ne respectent absolument rien dans la religion juive, qui ne croient en rien. Une vie très dissolue. Lui-même, ce rabbin Azoulay, auparavant, il était passé par Tunis. Et à Tunis aussi, il a trouvé des francs-maçons juifs. Et s'il avait continué ou poussé son périple jusqu'à Aix-en-Provence, il aurait trouvé aussi vraiment les premières cellules de francs-maçons juifs d'Aix-en-Provence qui ont existé bien avant la Révolution. À savoir, ces idées vont préparer les Juifs à accepter les innovations de la Révolution française, comme on le verra par la suite. Et s'il avait poussé, lui, M. Azoulay, jusqu'à Amsterdam, il aurait rencontré M. Isaac Pinto. M. Isaac Pinto, c'était un économiste, un philosophe, qui a eu un échange très célèbre avec Voltaire et qui a été offusqué par Voltaire. Après avoir lu l'article consacré par Voltaire aux Juifs, et il a été offusqué, non pas parce que Voltaire insulte, critique les Juifs à tout va, mais tout simplement parce que Voltaire a englobé dans le terme de Juifs et des séfarades et des ashkénazes, ce qui a vexé vraiment énormément M. de Pinto, qui lui était séfarade, parce que les séfarades, c'est glorieux et aristocratiques juifs portugais qui ne voulaient absolument pas qu'on les confonde avec les teutons du Nord, comme ils les appelaient. Et cette poussée de la modernité en milieu juif, qui va toucher bien entendu que les milieux aisés, était sensible surtout en Allemagne, et notamment depuis l'entrée en scène d'un personnage d'une énorme importance dans la pensée juive, c'est Moses Mendelssohn. Moses Mendelssohn, qui n'est autre que le grand-père du compositeur Félix Mendelssohn, et qui est en fait le fondateur de ce que nous appelons les Lumières juives ou la Haskala. Moses Mendelssohn, c'était un rabbin, mais un rabbin qui a ravi le premier prix de l'Académie de Berlin à Kant, le premier prix de philosophie, pour dire un peu quel était cet homme. Et il va d'abord s'imposer par des travaux novateurs sur Leibniz, sur Spinoza, sur Voltaire, avant de s'intéresser au judaïsme. Et dans le judaïsme, il va écrire un ouvrage très important sur Jérusalem. Il met en exergue une idée centrale, à savoir que sur la relation entre judaïsme et État, à savoir que depuis la destruction du Temple de Jérusalem, c'est-à-dire au 8e siècle, il n'y a plus d'entité politique juive. Comme il n'y a plus d'entité politique juive, il y a séparation entre État et religion. Et les Juifs sont tenus dès lors de respecter toutes les lois de l'État, même quand elles s'opposent à leurs propres valeurs. Au nom d'un principe talmudique qui va vraiment être le symbole même des Lumières, Dina de Malchuta Dina, à savoir la loi du royaume à force de lois religieuses. Et ce principe, les Juifs vont l'appliquer. pendant la Révolution, sous Napoléon, et c'est en fait qui va déterminer aussi leur attitude à l'égard de l'État. Pour les Juifs, il n'y a aucune raison de s'opposer quand l'État impose une loi, de s'opposer au nom de la religion. Sauf, bien sûr, dans des domaines extrêmes, si le royaume, si l'État veut obliger les Juifs à se convertir. D'accord. Mais dans le quotidien, ou même dans la vie publique, le Juif est tenu de respecter les lois du royaume, les lois de l'État. Ce sujet-là va être vraiment le thème même de la modernité juive. Mais Mendelssohn, comme c'était une grosse stature, comme on dirait, était appelé à chaque fois que les communautés juives à travers le monde avaient des problèmes. Et c'est ainsi qu'il va être à l'origine probablement du premier grand traité sur l'émancipation des Juifs. Il va être appelé par les Juifs d'Alsace et leur préposé, à savoir leur syndic, M. Seyfarth-Beyer, à la suite de remous antisémites créés par un notable local. Comment répondre aux attaques de ce notable local alsacien? Mendelssohn va proposer à Seyfarth-Beyer d'entrer en contact avec un fonctionnaire prussien du nom de Dohm, D-O-H-M, et lui demander ce qu'il pensait, comment régler la question juive. Et puis Dohm va écrire un ouvrage intitulé « De l'amélioration de la condition des Juifs », un ouvrage qui va sortir vers la fin des années 70. Et dans cet ouvrage, Dohm commence par poser comme hypothèse, si vous voulez, que, je cite, « les Juifs sont des hommes comme les autres ». Ou plus exactement, il y a plus d'hommes que de Juifs chez les Juifs. Vous comprenez, n'est-ce pas? Par conséquent, on doit les traiter comme les autres. Et à partir de cette hypothèse, si vous voulez, arrive la suite, l'avilissement et la corruption des Juifs, dont parlent notamment Voltaire et d'autres, est due à leur oppression, est due aux préjugés religieux de la société. Par conséquent, si on change de préjugés, si on élimine les préjugés à l'égard des Juifs, les Juifs vont être très bénéfiques à la société. Et puis, il répond par la suite, pourquoi faut-il améliorer la condition des Juifs? Tout simplement pour des raisons éminemment économiques, parce que si on améliore leurs conditions, eh ben, c'est l'accroissement de l'économie, on va élargir le marché, etc., etc. Ce livre de Dohm va susciter beaucoup d'intérêt en France, à la veille de la Révolution, et il va être lu avec enthousiasme par Mirabeau, qui va publier vraiment un livre sur Moïse Mendelssohn et sur la réforme politique des Juifs. Et c'est, on peut dire que Mirabeau a écrit le premier ouvrage sur le changement de la condition des Juifs. Il va être aussi à l'origine du concours de Metz, l'Académie des sciences et des arts de Metz, qui décide en 1985 de mettre en concours le sujet « Est-il des moyens de rendre les Juifs plus heureux et plus utiles en France ?» Il y aura une dizaine d'essais, et on va retenir deux ou trois, et notamment l'essai de l'abbé Grégoire, que l'on considère comme le père de l'émancipation juive. L'abbé Grégoire va plus ou moins reprendre les idées de Dohm. Je cite l'abbé Grégoire, « Au lieu de combler l'intervalle qui sépare les Juifs de nous, on ne sait plus à l'agrandir. Loin de leur fournir des motifs pour s'éclairer, s'améliorer, on leur a fermé toutes les avenues du temple, de la vertu et de l'honneur. Que pouvait devenir le Juif accablé par le despotisme, proscrit par les lois, abreuvé d'ignominie, tourmenté par la haine? Il ne pouvait sortir de sa chaumière sans rencontrer des ennemis, sans essuyer des insultes. Le soleil n'éclairait que ses douleurs. Martyr de l'opinion, il n'avait rien à perdre ni à gagner pour l'estime publique, même lorsqu'il se convertissait, parce qu'on ne voulait croire ni à sa sincérité, ni à sa vertu. Il était méprisé, il était devenu méprisable. À sa place, peut-être eussions-nous été pires. » Puis, l'abbé Grégoire étale tous les vices des Juifs, il a des mots très dur sur le Talmud notamment, mais il pense qu'il faut changer la condition des Juifs et il faut surtout tout régénérer les Juifs, un thème qui va avoir une connotation très spéciale pendant la Révolution française. parce que pour l'abbé Grégoire, une fois régénérés, les Juifs seraient non pas seulement les égaux des Français, mais peut-être ils pourraient être convertis au christianisme par la suite. L'Académie a décidé de renvoyer son débat définitif sur le choix des lauréats à plus tard, en 88. Mais entre-temps, il y a eu, comme vous savez, les troubles qui ont conduit aux États généraux. Et sur les 25 000 cahiers de doléances qui ont été rédigés en vue des États généraux, la question juive est évoquée par 200 cahiers seulement. Donc ce n'est pas vraiment le sujet, le grand sujet pour l'opinion. Les États généraux se réunissent en 89, ils sont ouverts à Versailles le 17 juin. Le tiers État se proclame Assemblée nationale, puis la suite, vous la connaissez, et surtout la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est proclamée par l'Assemblée. Pour les Juifs du Sud-Ouest, c'est bien, le problème est réglé. On ne veut rien de plus. Mais les Juifs ashkénazes et ceux de Paris n'entendaient pas comme ça. Ils voulaient une loi spéciale de l'Assemblée nationale pour l'émancipation des Juifs. Et c'est ainsi que le sujet de l'émancipation des Juifs, de l'égalité des Juifs, va occuper plusieurs séances de l'Assemblée nationale jusqu'au mardi 21 septembre 1791, quand enfin l'Assemblée nationale a proclamé les Juifs égaux et libres. Et on s'était aperçu, en fait, à la veille de ce vote, que les Juifs étaient les seuls qui n'aient pas été promus citoyens, alors qu'on avait promu citoyens les Turcs, les Noirs, etc. Et donc, les Juifs sont proclamés égaux, mais ce n'est pas fini, parce que entre-temps, après la Révolution, vous avez Napoléon qui entre en jeu. Napoléon, qui n'était pas très aimable à l'égard des Juifs, pour ne pas dire autre chose, et qui pensait, probablement sous la pression des Alsaciens, et notamment de Strasbourg, qui accusait les Juifs d'être des usuriers, va prendre une initiative absolument unique dans l'histoire, réunir des notables juifs, réunir ce qu'on appelle le Grand Sanhédrin. Le Grand Sanhédrin, c'est des notables juifs auxquels il va soumettre une série de questions pour voir vraiment si les Juifs, comme ils disent, sont vraiment des Français, s'ils se considèrent comme tels, et à la suite de quoi ces réponses du Sanhédrin seraient, disons, publiées, donner lieu à un ouvrage que Napoléon imaginait posé dans toutes les synagogues à côté de la Bible et du Talmud, à savoir comme un véritable livre sacré. Ce qui est intéressant, ce sont les questions posées par Napoléon, peu importe les idées de Napoléon, peu importe les préjugés de Napoléon. Les questions les plus importantes, c'était: est-ce que les Juifs considèrent les Français comme leurs frères? Est-ce que les Juifs acceptent la loi française, par exemple la loi interdisant la polygamie? Est-ce qu'ils acceptent la loi interdisant le divorce? À l'époque, c'était le divorce. Est-ce qu'ils acceptent, par exemple, de servir dans l'armée? Et là, les rabbins, les notables qui ont été réunis, vont utiliser ce fameux texte dont je vous ai parlé, le principe de Dina de Malchuta Dila, la loi du royaume à force de loi, pour dire d'abord, concernant le divorce, oui, le divorce est permis par la religion juive, mais si la loi française l'interdit, eh ben, nous ne l'appliquons pas. Pour la polygamie, la même chose. La polygamie est autorisée dans certains cas, pas dans tous les cas, la loi juive, mais comme la loi française l'interdit, eh ben, nous ne l'appliquerons pas. Quant à la question du samedi, du repos du samedi et le service militaire, dit oui, c'est vrai que tous les Juifs doivent respecter ce repos hebdomadaire, mais si l'État recrute des Juifs dans l'armée, ben, ils sont obligés d'accepter les consignes de l'armée. Donc, ils ont trouvé en fait la parade aux questions de Napoléon. Et puis, la dernière question, est-ce que les Juifs considèrent la France et les Français comme leurs frères? La réponse a fusé. Aux yeux des Juifs, les Français sont leurs frères et ne sont pas étrangers. Et comment pourraient-ils les regarder autrement lorsqu'ils vivent sur le même sol, qu'ils sont régis par le même gouvernement et les mêmes lois, qu'ils jouissent des mêmes droits et remplissent les mêmes devoirs? Oui, la France est notre partie, les Français sont nos frères, et à ce titre glorieux qui nous honore, nous ne cesserons jamais d'essayer de le mériter. Donc, c'est le cadre dans lequel va évoluer notre personnage, M. Adolphe Crémieux. Adolphe Crémieux qui naît à Nîmes en 1796, dans une famille originaire du Comtat. Son père est négociant, à peine admis au rang de citoyen par la Révolution, il va s'engager avec fougue dans la vie politique de Nîmes, d'abord girondin, puis jacobin, et il va faire partie d'une association, la Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité. Une activité politique qui va causer sa ruine, puisque après le 9 Thermidor, il est arrêté et incarcéré. Et puis, à sa sortie de prison, il trouve en fait son commerce dilapidé. Et puis, l'année de sa sortie de prison, il perd deux de ses enfants. Mais c'est le culte de la Révolution qui est vraiment l'idée générale qui régit l'éducation du jeune Adolphe. Adolphe qui est envoyé dans un pensionnat. Et après le pensionnat, il est admis à Paris, au lycée impérial. En fait, c'est le lycée Louis-le-Grand. Les élèves y étaient admis au concours et il était un élève comme cinq de ses cousins et ils étaient en fait les seuls juifs du lycée. Un lycée qui avait comme anciens élèves Robespierre, Saint-Just et Camille Desmoulins. Après le retour de Napoléon de l'île d'Elbe en 1815, c'est Crémieux qui a l'honneur de remettre à l'empereur au nom de ses élèves, de ses camarades, une lettre lui exprimant leur dévouement. Et il réclame le retour de règlement ancien. Napoléon a accueilli chaleureusement la délégation et il a serré la main du jeune Adolphe, n'est-ce pas ? Ce qui n'est pas rien. Pendant deux jours, raconte l'un des biographes d'Adolphe Crémieux, il a porté en écharpe cette main qui a touché la main de l'empereur. Après Waterloo et l'annonce du départ de Napoléon, Crémieux est rappelé à Nîmes par ses parents et après d'avoir suivi les affres de la Terreur blanche, ils vont l'envoyer faire ses études de droit à Aix. Il avait 19 ans. Il est libéré par tirage au sort du service militaire et puis licencié de droit l'année suivante avant de se présenter au barreau de Nîmes. Comme tout futur avocat, il devait faire le serment de respecter les règles essentielles de sa profession. Mais lorsqu'en 1817, il se présente pour le serment, le président du tribunal lui demande de faire le serment More Judaico, un serment spécifique aux Juifs, une séquelle du Moyen-Âge. Comme on ne faisait pas confiance aux Juifs, on les obligeait à faire le serment dans une synagogue et non pas au tribunal, sur un Sefer Torah, le livre de la Torah, et dans certaines communautés, les pieds sur une peau de porc aussi. Et donc, il a refusé de faire ce serment More Judaico. Est-ce que je suis dans une synagogue ? Non, je suis dans une salle d'audience. Est-ce que je suis à Jérusalem, en Palestine ? Non, je suis à Nîmes, en France. Est-ce que je suis seulement juif ? Non, je suis en même temps citoyen français. En conséquence, je prête le serment de citoyen français. Donc, il refuse. Il refuse et on accepte son refus. Et jusqu'en 1846, l'une des premières batailles de Crémieux, ça a été vraiment l'abrogation, la suppression de ce serment discriminatoire. Il est reçu ensuite au barreau de Nîmes et il va rester 7 ans à Nîmes avant de passer à Paris où il sera considéré comme l'un des plus grands avocats de la capitale. Et à chaque fois, il est rattrapé par cette histoire de serment More Judaico et en fait, c'est un serment qui ne sera supprimé qu'en 1846. Crémieux va s'engager de plus en plus dans la vie politique après les Trois Glorieuses et l'avènement de Louis-Philippe. Et il va acquérir une grande compétence de grand juriste et surtout de défenseur de la liberté de presse qui lui vaut d'être appelé par le consistoire israélite de 1834, puis président en 1843. Cette institution centrale du judaïsme de France était présidée par un banquier très connu, Worms d'Ormilly, mais c'était un personnage qui ne s'intéressait pas aux choses religieuses, mais surtout, il a eu la surprise de voir ses enfants convertis au catholicisme. Donc, en tant que père d'enfants convertis au catholicisme, il ne pouvait logiquement pas diriger une institution juive. Donc, Crémieux va le remplacer, il aura aussi la même expérience. À savoir, lors de ça, de ses voyages, son épouse va convertir ses enfants et lui aussi va quitter le consistoire pour les mêmes raisons. À cette époque, les Juifs de France étaient en plein questionnement sur le problème de la vie juive en France, aussi bien la société globale que leurs intellectuels commençaient vraiment à poser des problèmes sur la place du judaïsme de la grande famille française. Et certains disaient que, d'accord, la France leur a accordé l'égalité, a facilité leur intégration, mais pour autant, ils n'ont rien changé à leurs mœurs, ils n'ont rien changé à leurs croyances. Et c'est ainsi qu'on va assister à la naissance d'un mouvement d'intellectuels juifs qui vont demander vraiment une réforme du judaïsme pour compléter le mouvement d'émancipation lancé en 91. Et à la tête de ce mouvement, il y avait un personnage très intéressant, Olri Terkem, qui va publier systématiquement des lettres tsarfatiques. Tsarfat, en hébreu, c'est la France, n'est-ce pas? À savoir les lettres françaises. Lui-même était marié à une catholique, mais ce qui n'a pas empêché l'école rabbinique de lui proposer d'être professeur de mathématiques. Et Tsarfati va demander tout simplement des changements radicaux, comme par exemple la pratique de la circoncision, l'interdiction de travailler le jour du repos hebdomadaire du samedi, etc. Mais plus encore que ces changements, disons, de la pratique religieuse, il y avait aussi des idées derrière ce mouvement. Par exemple, un monsieur Cahen, qui était l'auteur d'un précis élémentaire d'instruction religieuse, l'ouvrage qui va former des générations entières des Juifs français. Il a tout simplement appelé, ce monsieur Cahen, à une redéfinition de l'identité juive. Il estimait, et c'est l'une des idées centrales du franco-judaïsme, que depuis la Révolution, Jérusalem n'est plus qu'un souvenir et ne doit plus être une expérience. Dans un autre, Ben Lévi qui était apparenté à Jeanne Proust, Ben Lévi va renchérir et ajouter « Les Juifs dont l'âme est à Jérusalem, tandis que son corps est en France, n'existent plus. C'est que la nation juive ne se trouve plus que sur le sol français. » Et Léon Halévy, qui faisait partie de ce groupe réformateur, « Pour les Juifs de France, le nom de Juif doit devenir l'accessoire et le nom de Français le principal. C'est pourquoi il faut réformer la religion juive qui est trop asiatique pour des nations européennes. » Et provoquer la fusion complète et définitive des sectateurs de Moïse et des autres Français. Donc, on voit ce courant se développer en France, et on peut dire en fait que la première génération des Juifs nés au lendemain de la Révolution française, ils vont adhérer à ces idées. Et puis, d'autant plus que parmi ces jeunes de la jeune génération, il va y avoir un attrait assez étonnant d'ailleurs. Pour un mouvement qui se développait à l'époque, c'est les Saint-Simoniens. Et parmi les Saint-Simoniens, on va trouver beaucoup de jeunes juifs comme Gustave Destal, Eugène et Olinde Rodriguez, Émile et Isaac Perrer, les banquiers, Léon Halévy. Les Saint-Simoniens vont ouvrir la pensée juive, d'autant plus qu'ils étaient aidés par un personnage aussi marginal que les Saint-Simoniens de la communauté, un personnage qui s'appelle Joseph Salvador, qui lui aussi est médecin de formation et historien autodidacte. Joseph Salvador va écrire des livres qui montrent un peu l'esprit de l'époque, des livres sur l'histoire des institutions de Moïse, des livres qui, d'un côté, traitent de l'histoire du judaïsme, ils traitent des relations entre le judaïsme et le christianisme. Et puis, ce qu'il y a de très intéressant, aussi bien dans cet attrait du saint-simonisme et dans ces livres, c'est que, parallèlement à leur ouverture d'esprit, il y a une sorte de, je ne dirais pas un retour au judaïsme, mais une sorte de retour à cette idée d'un peuple juif, ou comme il disait, d'une race juive. À l'époque, le mot race n'a pas la même signification qu'aujourd'hui. Et de l'autre côté, cette prise de conscience, si vous voulez, de l'existence d'un peuple ou d'une race, allait de pair aussi avec une foi énorme dans la France, qui était devenue comme la capitale ou la Mecque, si vous voulez, comme dit un journaliste juif, de la civilisation. Et puis, eux, les juifs, ce qu'on dit, les juifs français, ce qu'on dirait, comme une sorte de sauveur du monde juif, d'un côté la France qui sauve l'humanité, et puis les juifs français qui sauvent le monde juif. Donc il y a une sorte de concomitance entre ces nouvelles idées des Saint-Simoniens, ces nouvelles idées d'universalisme juif, et cette volonté des juifs de France d'œuvrer en faveur des juifs du monde, mais au nom de la France. Et c'est ainsi qu'un homme comme Adolphe Crémieux va s'impliquer dans l'affaire de Damas. L'affaire de Damas, c'est quoi? C'est une affaire qui a éclaté en 1840, quand on a accusé les Juifs de cette ville d'avoir perpétré le meurtre rituel à l'encontre d'un prêtre catholique. Ce qui est d'intéressant dans cette histoire, c'est que le consul de France à Damas avait pris fait et cause pour les tenants de la thèse du meurtre rituel. Et lui, Crémieux, au risque de s'aliéner son gouvernement, va défendre les Juifs contre cette accusation. Et c'est pourquoi il va faire le voyage en Égypte en compagnie d'un autre grand personnage juif de l'époque, Moïse Montefiore de Londres. Ils ont espéré, l'affaire a été éventée, et puis le sultan ne va pas donner accord des fois aux accusations contre les Juifs, et tous les Juifs qui ont été emprisonnés à cause du consul de France, ou à l'initiative du consul, vont être libérés de prison. Donc, première victoire. Mais plus que l'affaire de Damas, en fait, c'est l'Algérie qui va intéresser au plus haut point les Juifs français, et notamment Crémieux. Pour les Juifs de France, l'Algérie qui a été conquise par la France en 1830, pour les Juifs de France, les Juifs d'Algérie sont exactement comme ce qu'avaient été les Juifs de France à la veille de la Révolution. Donc, au nom de cette vision-là d'un peuple juif ou d'une race juive ou d'un cosmopolitisme, comme vous l'entendez, eh bien, il faut leur appliquer ce que la Révolution avait décidé pour les Juifs de France, à savoir, d'abord, la consistorialisation, à savoir la suppression des lois locales algériennes et l'application des lois françaises, par exemple, créer des consistoires. Et puis, à la longue, la naturalisation, enfin des Juifs d'Algérie, des Juifs français. Adolphe Crémieux va être le chantre de cet intérêt pour les Juifs d'Algérie. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les Juifs d'Algérie eux-mêmes ne voulaient pas, tout simplement parce qu'ils étaient des indigènes. Et les lois françaises les obligeaient à accepter des règles qui ne les enchantaient pas, par exemple, le divorce. Pourquoi leur interdire le divorce s'ils ne sont pas français? Ou la polygamie? Pourquoi interdire la polygamie? Et donc, les Juifs d'Algérie étaient très réticents, mais Crémieux, lui, pour lui, l'application des lois françaises, c'était tout simplement aider les Juifs d'Algérie à sortir d'Égypte, l'Égypte biblique. Et on va le voir venir assister à tous les procès dans lesquels étaient impliqués des Juifs d'Algérie, et à chaque plaidoirie, il parlait de la naturalisation des Juifs, et notamment expliquant qu'en fait, que les Juifs d'Algérie veulent être français et qu'il ne faut pas leur demander s'ils veulent vraiment. Eh bien, il faut leur imposer la loi française au nom de ce fameux principe de la loi du royaume d'Ina de Mar. C'est ce qu'il va finir par obtenir et par avoir, mais il y aura encore beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Il va démissionner, comme je le disais tout à l'heure, du consistoire parce que sa femme a converti ses enfants au christianisme. Il ne va pas en faire un drame. Et il va même jusqu'à signer en 62 l'acte de mariage religieux de l'une de ses filles en l'église Saint-Roch. Il est réélu au Parlement en 1846. Il va continuer à s'occuper d'affaires juives. Et puis arrive 1848. Là, Crémieux va jouer un rôle éminent dans l'établissement de la République. En 48, c'était sous Louis-Philippe. Louis-Philippe qui est obligé d'abdiquer à cause de l'affaire des banquets, à cause des remous. Et puis, nous avons un témoignage absolument inouï, c'est Crémieux qui va aider, en fait, Louis-Philippe à démissionner. Et nous avons le témoignage de Victor Hugo. Victor Hugo, dans Chose vue, va raconter comment cela s'est passé, cette abdication et ce départ de Louis-Philippe. Donc, à la veille de son abdication, Crémieux entre au palais, il est reçu par Louis-Philippe. Louis-Philippe, qui n'arrive pas à reprendre en main la situation, il décide de démissionner, d'abdiquer. Le roi raconte Victor Hugo, je vous cite, sans répondre une parole et sans quitter Crémieux de son regard fixe, ôta son chapeau de général qu'il tendit à quelqu'un au hasard près de lui, puis il ôta son cordon rouge, puis il ôta son uniforme à grosse épaulette d'argent et dit sans se lever du large fauteuil où il était comme affaissé depuis plusieurs heures, un chapeau rond, une redingote. On lui apporta la redingote, puis le chapeau rond, et au bout d'un instant, il n'y avait plus qu'un vieux bourgeois, écrit toujours Victor Hugo. Puis il cria d'une voix qui commandait la hâte, « mes clés, c'est le roi !» Les clés se firent attendre, cependant le bruit croissait, la fusillade semblait s'approcher, la rumeur terrible grandissait. Le roi répétait « mes clés !» Enfin, on trouva les clés, on les lui apporta. Tout se hâtait autour de lui, on entendait les princes et les valets dire « vite, vite !» La reine seule était lente et fière. On se mit en marche, on traversa les Tuileries. Le roi donnant le bras à la reine, ou pour mieux dire, la reine donnant le bras au roi, la duchesse de Montpensier s'appuyant sur M. Jules de Lastéry, le duc de Montpensier sur M. Crémieux. Le duc de Montpensier dit à Crémieux « restez avec nous, M. Crémieux, ne nous quittez pas. Votre nom peut nous être utile. » On arriva ainsi à la place de la Révolution. Le roi pâlit. Après avoir conduit les fugitifs aux voitures qui devaient les conduire vers leur exil en Angleterre, Crémieux va retourner au Palais Bourbon, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que la Deuxième République va être proclamée. Et les proclamés, c'est Lamartine qui est élu chef du gouvernement. Et Crémieux, lui, va devenir ministre de la Justice. Un autre notable juif, Michel Gouchot, est nommé ministre des Finances. C'était un banquier estimé. Et il a été nommé notamment parce que Lamartine espérait que sa nomination dissuaderait le banquier James de Rothschild et les membres de la Haute Banque de quitter Paris. Et donc, ce que véritablement le baron, quand il a vu la nomination de Gouchot, n'est-ce pas, il a confirmé son maintien en fonction de rester à Paris. De nouvelles élections. C'est ainsi que Gouchot, tout comme Crémieux, vont être élus. Et nous avons aussi cette remarque de Victor Hugo lorsqu'il voit Gouchot monter à la tribune le 23 avril 1848, je cite, « Grand fait qui montre comme les portes du passé sont bien fermées et combien c'est un avenir nouveau qui s'ouvre devant la civilisation. Ce qui complète la grandeur décisive du fait, c'est qu'il a passé inaperçu. » Cette promotion de Crémieux, de Gouchot et d'autres montre la promotion absolument remarquable du judaïsme français depuis 1791. Un processus qui va s'amplifier au cours du Second Empire lorsqu'on verra savants, écrivains, dramaturges, artistes et musiciens de confession juive rivaliser en popularité avec les hommes d'affaires et les politiciens juifs de même origine. Les journaux juifs, d'ailleurs, ne boudaient pas leur plaisir en publiant des listes de lauréats juifs dans chaque concours des grandes écoles ou bien de médaillés juifs de la Légion d'honneur. Et en fait, c'était la belle époque du judaïsme de France, ce milieu du 19e siècle. Ces juifs de France étaient donc pétris du culte de la Révolution. Et puis, parallèlement à ce culte de la Révolution, ils étaient aussi très imbus de cette idée de l'existence d'un peuple juif ou d'une nation juive. Et c'est ainsi que Crémieux et ses amis vont avoir l'idée de créer en 1860 l'Alliance israélite universelle, qui avait comme slogan l'union de tous les Israélites libres pour émanciper les Israélites opprimés dans le monde. Quand les Juifs de France parlent d'émancipation, en fait, ils ne pensent qu'en termes d'émancipation à la française. Et c'est ainsi donc que va se créer en France probablement l'une des organisations les plus importantes du judaïsme mondial, qui va devenir la devanture d'abord du judaïsme de France et puis aussi des Juifs du monde entier. Cette l'Alliance israélite, surtout les congrès de l'Alliance israélite, vont être aussi importants que les congrès du mouvement sioniste à la fin du siècle. Pour les Juifs de France, donc, le plus important, c'est d'apporter la culture française aux Juifs du monde. Pas seulement lutter contre l'oppression, mais c'est surtout apporter la culture française. Parce que l'œuvre de l'Alliance est une œuvre de régénération, pour utiliser les termes de la Révolution, et c'est aussi une œuvre patriotique française. Car, comme dit l'un des présidents de l'Alliance, comment ignorer qu'une telle action allait faire aimer la France où se produisent de si grandes pensées et de si belles choses? Comment oublier surtout que c'est la France la première qui a émancipé les Juifs? Dès lors, les Israélites de toutes les contrées doivent une impérissable reconnaissance à la France. Et c'est ainsi que l'Alliance israélite va créer un peu partout des écoles. Parce qu'on pensait à l'époque que la seule façon d'émanciper les Juifs, c'était par l'école. Les premières écoles au Maroc, suivies par des écoles en Grèce, en Turquie, en Palestine, en Algérie, en Égypte et jusqu'en Perse. Crémieux va rester pendant longtemps le président de cette association juive. Et pendant ce temps, donc, la question du statut des Juifs d'Algérie va faire problème parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il était hors de question pour beaucoup de Juifs de respecter les règles de la législation française alors qu'ils n'étaient pas français. Et c'est ainsi qu'en Algérie, dans les années 60, va se développer une vaste campagne pour la naturalisation des Juifs, une campagne qui va amener Napoléon III à promulguer un senatus consulte. Disons plus ou moins que les Juifs et les musulmans, sur certaines conditions qui le désirent, peuvent demander la nationalité française et l'obtenir. Et puis arrive vraiment la grosse surprise, contre toute attente, quelques Juifs seulement ont demandé. Et puis quand Crémieux saura les résultats de cette consultation, il va avoir comme réponse: mais ne leur dites jamais « soyez français » si vous le voulez, car volontairement ils n'abdiqueront pas la loi de Dieu. Autrement dit, si vous voulez que les Juifs soient français ou des Français, ben, il faut tout simplement décréter un décret les naturalisant. Et l'histoire a voulu que ce sera vraiment Crémieux qui va publier ce fameux décret Crémieux. Comment cela s'est passé? Ben, c'est l'histoire, encore une fois, et ses surprises. Le désastre de Sedan, la chute de l'Empire, le 4 septembre, la France est amoindrie. Et les Juifs de France perdent un tiers de leur population, sinon plus, puisque l'Alsace sera occupée par l'Allemagne, par la Prusse, l'Allemagne. La République est encore une fois proclamée. Adolphe Crémieux va être nommé ministre de la Justice. Et en tant que ministre de la Justice, la délégation de Tours, si vous voulez, cette délégation qui faisait fonction de gouvernement, va demander à Crémieux de réfléchir à un nouveau statut pour l'Algérie, mais pour l'Algérie. Et il va promulguer une série de décrets sur l'Algérie pour la réorganisation de l'administration de l'Algérie. Et parmi ces décrets, celui qui va porter son nom, à savoir le décret naturalisant immédiatement et automatiquement l'ensemble des Juifs d'Algérie. Au début, le décret a été accueilli avec indifférence par la population, mais par la suite, ce décret en fait va susciter l'opposition des colons. Ce décret va être la cause d'un vaste mouvement anti-juif en Algérie qui va dépasser de loin, par sa virulence, l'antisémitisme français de l'époque de l'affaire Dreyfus. Donc, on peut dire que c'est le dernier acte politique de Crémieux, mais c'est aussi le dernier acte juif de Crémieux, si vous voulez. Il est élu député d'Alger en 1872, puis promu sénateur inamovible en 1975. Affaibli par la vieillesse et endeuillé surtout par la mort de son fils et de sa petite-fille, il meurt à 84 ans, deux fois membre du gouvernement, dont il avait même été le chef pendant quelques jours à Tours, trois fois député, sénateur inamovible, avocat franc-maçon, ancien président du consistoire. Ses funérailles sont prises en charge par l'État en hommage au grand service qu'il a rendu au pays. Le journal des débats, le grand journal de l'époque, a rappelé à cette occasion que Crémieux avait offert de sa poche la somme de 100 000 francs pour la libération du territoire occupé par les Allemands et exhorté en même temps les Israélites français de suivre son exemple et de souscrire massivement à l'emprunt pour le paiement de l'indemnité de guerre exigée par l'Allemagne. Je cite, disons à cette France adorée, voilà ce que tu as fait. Citoyens, les fils et ceux que tu as adoptés en 91, les voilà. Ils sont tes enfants les plus dévoués, ils te l'ont prouvé les jours de combat et ils te le prouvent au jour du malheur. Il est inhumé au cimetière de Montparnasse. Les obsèques de Crémieux vont se dérouler en présence de Gambetta, du président de la Chambre, Jules Ferry, ainsi de suite, des généraux, des hommes d'affaires politiques. Et au milieu des discours officiels, un jeune étudiant juif roumain prit la parole pour exprimer la reconnaissance des Juifs de son pays pour le grand homme. Au cours des semaines suivantes, des centaines de télégrammes de condoléances ont afflué de toutes les communautés juives du monde entier au bureau de l'Alliance israélite. C'est la fin d'une époque, parce qu'à partir de ce moment, d'abord, le judaïsme de France va changer. C'est l'arrivée massive d'émigrés d'Europe de l'Est qui vont transformer la physionomie du judaïsme de France. 6 ans après la mort de Crémieux, c'est Drumont qui publie La France juive, le fameux ouvrage antisémite. Et puis, quelques temps plus tard, ce sera l'affaire Dreyfus. C'est donc la fin d'une histoire et la fin d'une époque. Je vous remercie.
Vous savez qu'on a une conférence qui a été faite par les gens de l'Alliance israélite universelle. Et il y a une similarité de date. Ces principes qui ont été retenus dans la BRI sont tout à fait similaires.
Vous avez fait allusion à la naissance du mouvement sioniste à la fin du 19e siècle. Et vous dites que l'Alliance israélite était nettement dissociée de ce mouvement sioniste.
Alors, même opposé. Mais vous savez, les choses ne sont pas d'un côté. Ils s'étaient opposés parce que le sionisme parlait d'un État juif, alors que pour les Juifs de France, il était hors de question de créer un État juif. C'est le seul patriotisme, c'est le patriotisme français, donc hors de question. Mais parallèlement, et c'est là toute la contradiction, les premiers villages coopératifs juifs ont été créés par un Français, Edmond de Rothschild. Et puis la ferme école qui va servir vraiment d'emblème. Mouvement sioniste, la ferme école, où l'on va préparer les agriculteurs pour les kibboutz, etc., était aussi créé par un autre Français, c'est Charles Netter. Charles Netter qui n'était autre que l'un des fondateurs de l'Alliance. L'Alliance qui va aussi ouvrir des écoles en Palestine, tout comme elle a ouvert un peu dans tout le bassin méditerranéen. Donc il y a cette contradiction, mais on peut dire que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'Alliance israélite s'est opposé nettement et farouchement au sionisme.
Bon, moi, je suis catholique, mais quand j'étais enfant, je ne connaissais même pas le mot juif. On me disait, elles ne font pas leur communion parce qu'elles sont israélites. Et là, ce que vous dites, on n'emploie plus maintenant le mot israélite.
Absolument.
Et je sais que j'avais assisté à une conférence au mémorial de la Shoah, et Annette Lujorka, bon, qui fait partie des pays de l'Est, hein, à un moment, elle a dit « les israélites, comme vous dites ». Moi, ça m'a choquée.
Oui. Ce changement sémantique s'est opéré au lendemain de la Shoah. Puis, il se trouve aussi que sous Vichy, d'accord, c'est le terme de juif qui a été utilisé dans toute la législation. Et par exemple, Darquier de Pellepoix, qui était le commissaire aux questions juives, il a donné comme directive à ses fonctionnaires, n'appelez pas les juifs monsieur ou madame. Il faut les appeler le juif Olivier, le juif, etc. Donc, il y a ça. Et puis, il se trouve aussi que, je parlais tout à l'heure des immigrés de l'Est européen, assez vaguement, on faisait un distinguo entre les Israélites. L'Israélite, c'était ceux dont j'ai parlé, en fait, c'est à savoir c'est les Juifs de France, nés en France, issus de la Révolution, etc. Et les Juifs, c'était les immigrés. Mais vous avez raison, grosso modo, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'était les Israélites. Et le terme juif est devenu un terme d'actualité. Je cite quelque part Alain Finkielkraut, disant que quand on parle de juif, c'est le juif qui fait des courbettes, etc. Quand on parle d'israélite, n'est-ce pas ? On veut, quand on parle de juif aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est pour s'affirmer comme tel. Et non pas se présenter comme le juif des nations, le juif tel qu'on.
Il me semble qu'en Algérie, le terme israélite n'a jamais été utilisé par les juifs eux-mêmes. Par contre, en France métropolitaine, si le terme correct, c'était Israël.
Ah, c'était Israël.
Oui,
ah,
oui.
Mais disons que le terme juif a une connotation péjorative.
Voilà. Ouais. Mais en même temps, parce qu'en tout d'un coup, on a reconnu qu'on pouvait avoir une certaine judéité sans être religieux.
Donc, oui, mais le terme ne le transmet pas.
On ne va pas dire qu'on est israélite alors qu'on n'est pas du tout religieux. Après, c'est une question de mots, et ça dépend ce qu'on met dedans. Et on sent très bien dans la parole de quelqu'un avec quel arrière-ton, arrière-pensée, il va prononcer tel ou tel mot. Oui. Et c'est là que c'est important.
L'une des suggestions d'un journal israélite, dans les années 40, c'est demander à l'Académie de ne plus utiliser le terme de juif. Le juif, c'est celui qui existait jusqu'à la Révolution, voilà. Mais aujourd'hui, c'est le terme d'israélite. Mais pour les antisémites, comme par exemple, quand M. Drumont publie son livre, il n'a pas écrit la France israélite. C'est la France juive, n'est-ce pas?
Oui. Oh, mais ça recouvre quand même deux choses, une religion.
Oui, 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 je sais,
puis,
mais...
un peuple, voilà.
J'ai l'impression que c'était quand même vraiment un problème d'époque.
Alors vous avez fait allusion au Saint-Simonien et au franc-maçon. Le rapport avec ces deux courants de pensée, c'est lequel pour Crémieux ?
L'adhésion des Juifs à la franc-maçonnerie en France a précédé la Révolution française. Et en fait, d'une certaine manière, elle les a préparés à accepter la laïcité. Telle qu'elle est perçue. Chez les Saint-Sommiens, en fait, c'est une vision d'abord de changer la société. Il y avait un côté spirituel chez les Saint-Simoniens. Et il se trouve, et c'est ça qui est assez intéressant et même curieux, qu'il y avait beaucoup de juifs chez les Saint-Simoniens, et pas n'importe qui. Les fameux pères que nous connaissons étaient vraiment des adeptes du Saint-Simonisme jusqu'à la fin. Chez les Saint-Simoniens, il y avait aussi cette idée de changement économique, de changement industriel. Ils avaient une idée aussi, une vision très romantique et romanesque de l'Orient, n'est-ce pas ? Et que grâce au chemin de fer, l'Occident allait se réunir à l'Orient et d'une certaine manière, ces deux parties du monde allaient se ressourcer les uns les autres. Donc il y avait une mystique chez les Saint-Simoniens qu'on ne trouve pas. Chez les francs-maçons, ce sont peut-être dans les rites et dans les activités.
Oui. Moi, il y a une chose qui m'a étonnée, c'est quand même la conversion des enfants Crémieux et puis des enfants d'un autre.
Oui, voir du dormilier. Oui.
Voilà, une mode de quoi. Parce que c'est, ils n'étaient pas forcés. Je veux dire, c'est pas. Quel est l'intérêt? Ou est-ce que c'est vraiment une illumination de foi et on peut plus rien.
Oui, oui. Par exemple, nous avons la conversion très connue des frères Ratisbon. Les frères Ratisbon, c'est le fondateur de Notre-Dame de Sion, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de fils de rabbins qui se sont convertis au christianisme. Et Ratisbon, le frère, c'est tout simplement les fils de rabbins. Le grand rabbin de Strasbourg, le fils du grand rabbin de France aussi. Nous avons le témoignage d'Alphonse de Ratisbonne. Il raconte comment cela s'est passé. Il termine son bac, son papa, le grand rabbin, pour lui faire plaisir, l'envoie à Rome, en récompense, n'est-ce pas, pour son bac. À Rome, il entre, il visite Rome, il entre à la chapelle Sixtine, et là, c'est la foi, et puis il revient transformé. Et je vous ai parlé tout à l'heure de Terkem, Olri Terkem, son frère aussi. Alors, il y a eu aussi des conversions un peu, disons, frauduleuses, si je puis dire. À savoir, on convertissait des malades sur le lit de mort. Mais dans l'ensemble, il y a eu relativement moins de conversions en France qu'en Allemagne. Pour une raison bien simple, c'est qu'en France, grâce à la Révolution, il ne fallait pas changer de religion pour réussir. Il y avait juste un cas assez connu, c'est de Cahen qui a réussi le concours de l'école normale supérieure, mais on l'a empêché d'entrer à l'école normale supérieure parce que l'évêque du coin pensait qu'il ne pouvait pas enseigner après l'école normale en tant que juif. Mais les juifs pouvaient accéder à toutes les fonctions. Alors qu'en Allemagne, où il n'y a pas eu, avant 1870, de proclamation de l'égalité des juifs, la seule façon pour les juifs d'avancer, c'était de se convertir. Et donc, vous avez le cas du père de Karl Marx, le cas de Henri Heine, etc., et d'autres encore. Les conversions qui étaient massives en Allemagne, mais moins en France. Une bonne partie des Juifs d'Alsace ont opté pour la nationalité française. C'était des optants. En masse, ils ont opté pour la nationalité française. Bien sûr, il y avait des Juifs qui sont restés sur place, mais ils essayaient de garder le lien avec la France. C'est vrai qu'ils ont été submergés par une émigration allemande en Alsace pendant ces années, au point de devenir minoritaire par rapport aux Juifs d'Allemagne qui sont venus s'installer en Alsace. Mais jusqu'à la fin, ils sont restés vraiment des patriotes français. Il y a eu beaucoup de Juifs alsaciens qui, pour ne pas rester sous domination allemande, ont émigré en Amérique, ont émigré en Algérie aussi, on peut dire la plupart, ont émigré en France, comme par exemple la famille d'Alfred Dreyfus. Oui.
Très bien, écoutez. Vous parliez tout à l'heure d'une référence sur Crémieux, mais j'ai dévoré votre livre sur l'histoire des Juifs en France, qui vous permet d'avoir une vision très précise de toutes les évolutions, donc je vous conseille très bien.